Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de l'infertilité, un désir d'enfant qui, au fil des mois et des années, ne se traduit pas par la conception d'un bébé. Une attente plus longue que prévue qui pousse le couple à consulter va générer des sentiments complexes. Beaucoup d'idées fausses circulent encore au sujet de l'infertilité, alors que près d'un couple sur cinq est confronté à ce problème, par exemple en France. Des fausses croyances sur ces facteurs, à la recherche d'une responsabilité tranchée au sein du couple, d'une réponse qui porte un nom, maladie, malformation, impact de l'environnement, des causes que parfois de multiples analyses et explorations ne mettront jamais en lumière. L'infertilité, un problème de santé de la reproduction, mais au-delà, une attente imprévue qui peut se révéler douloureuse, source d'angoisse, de dépression, une quête d'enfant qui peut aussi être source de tensions destructrices au sein du couple, exacerber les pressions sociales, familiales, au travers de remarques, même involontaire, parfois blessante. L'infertilité source d'exclusion, infertilité prise en charge sur les plans physiques donc, mais aussi psychologiques, directement dépendante de la qualité de l'accès aux soins. Car si cette préoccupation est planétaire, les réponses apportées par les différents systèmes de santé, eux, sont loin d'être universelles. L'infertilité, notre sujet du jour dans Priorité Santé avec nous pour en parler, docteur Sylvie Pelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de la reproduction au sein de l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Togo le docteur Moïse Fiadjo, gynécologue obstétricien qui s'occupe justement de ces questions de stérilité à la clinique Biassa de Lomé. Et comme tous les jours, on attend vos messages, bien sûr vos appels, notre page Facebook et notre numéro de téléphone 33 84 22 75 75. En fin d'émission, on va faire le point sur les dernières avancées dans l'identification des cellules réservoirs du virus du sida. De nouvelles pistes qui s'appuient sur les dernières avancées en immunologie, en matière notamment de lutte contre le cancer. On sera en ligne avec Assier Cèze Sirion, coordinateur de l'étude des chercheurs au sein de l'unité HIV Inflammation Persistance à l'Institut Pasteur.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Sylvie Pelboin, quand on se pose des questions, on est souvent à la recherche d'une réponse tranchée, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut définir la cause majeure de l'infertilité ou on doit se contenter, hein, même si c'est déjà pas mal, sur un faisceau d'explications multiples, sur des explications partagées?
Ah, vous avez employé le très bon terme pour finir. Ce sont en général des explications partagées. Faire un enfant... c'est à deux, donc il y a des éléments de fertilité ou d'infertilité chez l'un et chez l'autre. Donc il peut y avoir une problématique au niveau de l'ovulation chez la femme, des trompes bouchées, un problème au niveau de l'utérus, par exemple des fibromes, et puis des anomalies chez l'homme. Parfois, il n'y a aucune anomalie qui soit à elle seule responsable de l'infertilité, mais un problème chez l'un et un petit problème chez l'autre peuvent expliquer que le temps dure et ce sont donc les traitements des deux à la fois qui vont permettre d'aboutir au succès.
Avec donc des causes réversibles, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qu'on peut, on va dire, guérir et d'autres non.
Il y a des causes réversibles que l'on peut guérir. Par exemple, le fait d'avoir un kyste sur l'ovaire que l'on peut enlever ou des trompes abîmées. Si elles ne le sont pas énormément, on peut effectivement les rendre à nouveau perméables. Mais il y a des causes irréversibles parce que les trompes ont été plus abîmées encore et un embryon ne pourra pas circuler. Et à ce moment-là, ce sont des traitements que l'on appelle palliatifs, c'est-à-dire tous les traitements que l'on regroupe sous le terme de fécondation in vitro, qui vont en quelque sorte sauter l'obstacle des trompes bouchées, par exemple.
Alors cette infertilité entourée d'un certain nombre d'idées fausses, hein, y compris en France, comme en atteste un sondage réalisé le mois dernier par l'Institut OpinionWay pour un laboratoire pharmaceutique, enquête qui montre que la plupart des personnes estiment que c'est la maladie qui est la première cause d'infertilité. 90% d'entre eux le pensent, devant l'âge ou encore certaines mauvaises habitudes, hein, comme le tabagisme ou la consommation d'alcool. Est-ce que vous aussi, en consultation, docteur Eppelboin, vous entendez ces idées reçues, ces fausses croyances?
Oui, il y a énormément d'idées reçues et il y a aussi beaucoup d'idées reçues à l'heure actuelle, entretenues par les médias, pardon, et par les réseaux sociaux. Donc parmi celles qui vont le plus générer de handicap, notamment chez les femmes, ce sont par exemple ces photos extraordinaires d'actrices qui vont dire « j'ai 44 ans et j'ai pu avoir un bébé ». Il n'est jamais dit, ou alors en tout petit sous-titre, que la femme n'a pas pu enfanter grâce à ses propres ovaires, mais qu'elle a eu recours à un don d'ovules. Donc effectivement, elle a pu porter l'enfant, ou elle peut être mère, mais ce n'est pas avec ses propres ovules.
L'information
Donc,
est
exemple,
complètement incomplète.
L'information, j'en parlais déjà tout à l'heure, du vieillissement des ovaires très prématurés chez des femmes très jeunes, qui fait que à partir de 35 ans, eh bien, les chances de fertilité baissent. C'est une information complètement inconnue et chaque personne va venir en disant « j'ai lu que, j'ai une amie qui m'a dit que » et c'est très difficile de lutter contre ces présupposés. Donc, il faut expliquer, expliquer et expliquer encore.
La jeunesse et la vieillesse en santé, en tout cas en santé de la reproduction, c'est pas la même chose que la beauté de la peau ou la tension sur les joues. Il y a vraiment un vieillissement qui est formel.
Oui, à une période où, dans certains pays comme le nôtre, l'espérance de vie des femmes est de 87 ans. Ça n'est pas dans tous les pays d'Afrique, je le sais, mais ça a quand même progressé. Il reste cette diminution farouche de la fertilité chez les femmes à partir de 35 ans et globalement à partir de 40 ans, les grossesses sont exceptionnelles, ce qu'on a oublié. Et il faut dire que auparavant, cet arrêt précoce de la fonction ovarienne sauvait en quelque sorte les femmes qui avaient eu de multiples grossesses qu'ils avaient épuisées et qui leur permettaient de vivre une seconde vie, comme on connaît d'ailleurs très bien en Afrique, de femmes qui acquièrent un autre statut à partir du moment où elles sont, entre guillemets, ménopausées sur le plan de la fertilité.
Alors, on va revenir aux fondamentaux. Au bout de combien de temps un médecin parle-t-il, par exemple, à un couple d'infertilité? À partir de quand le mot est-il lâché? Combien de temps d'essai, justement, de conception sans l'arrivée du bébé?
En général, les couples en parlent avant nous.
Et des fois, justement, vous leur dites non, c'est un petit peu tôt pour parler d'infertilité?
Oui, bien sûr. Et puis, le mot n'est peut-être pas lâché comme ça. Tout dépend du contexte. Il y a des personnes qui vont avoir un projet d'enfant relativement tard, comme on le voit de plus en plus souvent. Ça rejoint la conversation que nous venons d'avoir. Et qui vont s'inquiéter très vite parce que pendant 20 ans, on a essayé de ne pas avoir d'enfant. Et puis, on arrive à 37, 38 ans, on veut un enfant. Et on s'impatiente très, très vite si ça ne vient pas. Donc, les gens vont consulter et là, il faut savoir à la fois les calmer et en même temps prendre en compte le fait que il faudra peut-être agir plus tôt qu'on ne l'aurait fait s'ils avaient 30 ans. Et puis, il y a des personnes qui vont venir et pour qui l'interrogatoire de début de consultation va repérer le fait que monsieur a eu les oreillons à l'âge adulte, a eu un traumatisme important, ce qu'on appelle une épididymite, c'est-à-dire une infection ou inflammation des voies génitales, ou que madame a eu un gros problème de trompe ou une péritonite après avoir été opérée de l'appendicite qui a pu abîmer ses trompes. Donc on a un signal d'appel, une alarme pour dire « là, ça vaut la peine de faire un bilan précoce. S'il y a quelque chose, on ira rapidement au traitement et on parlera rapidement d'infertilité. Et s'il n'y a rien, on sera rassuré. Mais la première étape est faite. Et là, on peut vous rassurer, vous dire « attendez encore un petit moment ».
Docteur Sylvie Eppelboin, ce bilan, il prend combien de temps? Il consiste en quoi?
Alors, ce bilan, il prend le temps, je dirais, un petit peu que les gens souhaitent. Il peut être réalisé, le bilan de base peut être réalisé en 1 à 2 mois. Il y a un premier bilan chez la femme, commençons par elle, qui se fait au troisième jour du cycle, le premier jour du cycle étant le premier jour des règles, et qui permet de faire le point sur la santé ovarienne, ce que nous appelons la réserve ovarienne en follicules, à la fois l'échographie, donc c'est un examen non agressif, et par une prise de sang qui dose les différentes hormones de la reproduction. Le deuxième type d'exploration, c'est de savoir si les trompes sont perméables, c'est-à-dire non altérées et non obturées. Et donc ça, c'est une radio de l'utérus et des trompes qui se situe plutôt juste avant l'ovulation, c'est-à-dire la deuxième semaine du cycle, quand on ne saigne plus, mais avant l'ovulation, pour ne pas le faire si la femme, par hasard, était enceinte. C'est vraiment la base de l'exploration chez la femme.
Alors, vous restez avec nous, docteur Sylvie Pelbeau. On va aborder d'autres problématiques, notamment la problématique psychologique, hein, quand il peut aussi y avoir des blocages qui ne sont pas forcément liés au corps, mais aussi à ce qu'on a sur le cœur. Hein, on peut dire ça, surtout quand on doit concevoir un enfant. Et on va prendre des auditeurs en ligne. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je n'aurais pas voulu terminer ce bref rappel des examens sans dire que il n'y a aucun examen chez la femme quand un couple veut un enfant sans qu'il y ait l'examen chez l'homme, qui on appelle le spermogramme, avec analyse des caractéristiques spermatiques.
Notamment quand on dit les spermatozoïdes sont fatigués ou pas assez nombreux, c'est un peu les choses qu'on entend de façon triviale. Ça, c'est issu
de... Ça sera la conclusion. On ne demande aucun bilan chez la femme si on ne demande pas un bilan en même temps chez l'homme. Les causes d'infertilité sont pour un tiers la femme, l'homme, et pour un énorme tiers les deux.
Juste pour une petite mise au point, les choses ont changé à ce sujet. Avant, on regardait beaucoup plus du côté de la femme que de l'homme. Est-ce que les choses ont évolué dans le temps? Est-ce qu'on est allé vers plus d'équité, d'égalité à ce sujet?
C'est toujours la femme qui n'est pas enceinte, donc c'est toujours vers elle que dans toutes les sociétés, toutes les cultures et dans tous les temps, le regard s'est porté. J'ai jeté un œil aux questions qu'habituellement peuvent poser les auditeurs, et c'est toujours « ma femme n'est pas enceinte ». Ma femme n'est pas enceinte, mais ça peut être moi, l'homme, qui ai un problème. Donc les hommes acceptent beaucoup plus cette information-là. On peut dire qu'elle est passée un petit peu plus ici et ailleurs.
On va donc prendre tout de suite nos auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Auditeurs et auditrices, bien sûr, on commence avec Fatoumata qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
On vous écoute Fatoumata, le docteur Epelboin vous écoute.
Ça fait un an et demi que je cherche à avoir un enfant. Ça ne vient pas et du coup j'ai fait des examens. Tous les examens que le docteur a prononcés, moi je les fais.
Excusez-moi, vous avez quel âge, Fatoumata, parce qu'on commence toujours un petit peu par cette question.
30 ans.
30 ans.
Oui. Vous... Et du coup, là, en janvier 2018, on a diagnostiqué que je souffrais de la polyarthrite rhumatoïde. Je ne sais pas si ça a un lien avec l'infertilité ou pas.
Alors, vous avez fait les tests, votre compagnon également a fait des tests.
Il a fait, mais on n'a pas encore le résultat.
Ça veut dire que quand vous êtes allé chercher la cause, on a commencé l'interrogatoire par vous, puis après, par votre compagnon, on n'a pas fait les deux en même temps?
Non, vu qu'il ne vit pas sur Paris.
D'accord, c'était pour des questions matérielles.
D'accord, oui.
Donc la question, docteur Sylvie Pelbois de Fatoumata, c'est s'il y avait un éventuel lien avec sa maladie chronique, donc sa polyarthrite rhumatoïde, avec ce qu'elle considère déjà comme un retard dans justement l'accession à la maternité.
Donc je vais avoir deux éléments de réponse. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
La première chose, c'est que vous avez 30 ans. L'âge est extrêmement important en matière de fertilité, donc c'est un élément très optimiste. La deuxième, je comprends bien que vous n'avez pas fait tous les tests. Donc c'est vrai que tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est de votre compagnon, ça va être difficile de répondre de façon ferme sur la responsabilité de votre polyarthrite. J'entends qu'il n'habite pas pas à Paris et c'est vrai que finalement la meilleure façon de faire des bébés c'est un peu d'être ensemble et de faire l'amour relativement régulièrement, ce qui est parfois compliqué chez un couple qui pour des raisons personnelles ou professionnelles n'habite pas ensemble, donc ça rend le temps d'obtention de l'enfant beaucoup plus long. Donc voilà les choses que je vois d'emblée là pour l'instant. En ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde d'une façon générale, on sait que toutes les maladies de l'ensemble du système, les maladies générales comme celles que vous évoquez ou d'autres maladies de ce type peuvent jouer sur la fertilité de deux façons, soit au niveau de votre ovulation, soit par des facteurs qu'on appelle d'auto-immunité, donc d'ordre immunologique, sur l'implantation de l'embryon. Mais c'est vrai que dans votre cas, tant que vous n'avez peut-être pas une vie de couple plus régulière et tant qu'on ne sait pas quelle est la fertilité de monsieur, je pense que ce n'est pas la polyarthrite qu'il faut incriminer en premier.
Fatoumata, sans être intrusive, vous dites vous cherchez à avoir un enfant depuis un an et demi, mais vous habitiez régulièrement avec votre compagnon pendant cette période ?
Oui, on l'habitue régulièrement, oui.
D'accord. Ben, vous avez eu la réponse du docteur Épelleboin, et puis donc l'attente des résultats, justement, des analyses de votre partenaire qui certainement pourront vous éclairer pour vous apporter des réponses à vos questions. On vous souhaite une très bonne journée, Fatoumata. On va partir pour le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, où l'on retrouve Michel. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
On vous écoute.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Voilà, moi j'ai un souci. J'ai ma grand-mère, donc la sœur de ma grand-mère, elle a actuellement 60 ans, 61 ans. Elle n'a pas pu avoir d'enfant toute sa vie. Et j'ai aussi ma tante, la petite sœur de ma maman, qui a 45 ans cette année. Elle non plus, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Alors, je voudrais savoir un peu, est-ce que la fertilité est-elle héréditaire? Est-ce qu'il y a un lien là? Parce que ma grand-mère n'en a pas eu. Ma tante n'a pas eu d'enfant. Et moi-même, actuellement, j'ai 31 ans. J'ai eu du mal à avoir ma première fille. J'ai suivi un traitement pendant une année. Et là, on essaie d'avoir un deuxième enfant. C'est le même problème qui ressurgit. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce lien d'infertilité-là arrive jusqu'à moi? Quelle est la cause? Et voilà, ça me dépasse un peu, ça me fait beaucoup mal parce que je suis ensemble avec mon mari dans une même maison, on essaie et ça ne vient pas.
Vous nous rappelez votre âge, Michel ? Vous nous rappelez votre âge, Michel ?
31 ans.
31 ans. Donc vous avez déjà eu un enfant et vous essayez d'en avoir un deuxième. Réponse du docteur Sylvie Épelleboin justement sur cette grande interrogation, l'hérédité possible ou non de l'infertilité ?
Alors,
des facteurs familiaux, on va dire.
Bonjour Michel. Oui, il y a des facteurs familiaux d'infertilité, mais d'une façon générale, qui gèrent la fertilité. Il y a ce qu'on appelle des profils hormonaux, c'est-à-dire de la régularité des règles ou un certain nombre de pathologies de la reproduction qui peuvent être familiales et sur un plan que vous appelez héréditaire et que j'appellerais plutôt génétique, il peut y avoir des facteurs de stérilité qui sont transmissibles d'une génération à l'autre, tout en ne touchant que quelques personnes dans la lignée, puisque ça n'est pas forcément le facteur dominant. Si c'était le facteur dominant, eh bien, comme les personnes stériles n'auront pas d'enfants, eh bien, ça s'arrêterait relativement rapidement. Donc oui, il peut y avoir un facteur génétique, mais il peut aussi y avoir une problématique environnementale commune à plusieurs personnes. Et on sait qu'il y a des régions du monde où de nombreux couples ne vont pas avoir d'enfants en raison d'une problématique plutôt environnementale. Et enfin, je dirais que à votre échelle, à vous, en tant que personne, il faut toujours retenir que la sœur de votre grand-mère avait un compagnon, votre tante avaient un compagnon, l'un et l'autre différent, et différent de votre mari, et qu'il peut y avoir aussi simplement une association de coïncidences avec peut-être deux hommes qui avaient un problème d'infertilité et pas du tout vos grands-mères, surtout que vous nous avez dit que vous aviez eu une fille et qu'il y a peut-être tout à fait autre chose correspondant à votre couple. Donc
pas
là, je vous ai donné un petit peu un éventail.
Chercher aussi les causes chez les femmes.
Il peut y avoir une cause génétique chez les femmes, mais n'oublions pas jamais que chaque couple est particulier.
Voilà pour cette réponse, Michel. On vous souhaite une très bonne journée au Congo-Brazzaville. On va partir pour le Mali, pour Bamako, où l'on retrouve un auditeur. Hein. Cet auditeur, c'est Badra. Bonjour, Badra.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Badra.
En fait, je suis mariée il y a 2 ans et demi. Je vis avec ma femme régulièrement. Et on est parti voir un docteur il y a 2 mois, gynécologue, qui nous a demandé de faire un bilan de santé. Ma femme en a fait, moi aussi. J'ai fait 2 spermogrammes, je pense. Et les résultats ont montré une absence totale de spermatozoïdes, ce qui veut dire azoospermie. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que chez tous les hommes, on peut avoir une infertilité totale pour toute la vie, par exemple? Ça, c'est ma première question. Voilà. La deuxième question est, est-ce qu'il y a des solutions pour azoospermie?
Alors, cette question, docteur Sylvie Eppelboin, est-ce qu'on peut guérir tout simplement? Est-ce que les spermatozoïdes peuvent revenir? C'est la question que demande, la question que pose Badra.
Oui, bonjour monsieur. Alors, les caractéristiques du sperme, quand on fait un bilan, on regarde le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et leur morphologie, c'est-à-dire combien il y a de formes normales. Donc, quand il y a quelques anomalies, on sait que cela peut être variable en fonction de multiples facteurs. Est-ce qu'on est très fatigué à un moment? Est-ce qu'on a de la fièvre, etc. Et ça peut varier et ça peut s'améliorer. Quand il y a une azoospermie, c'est-à-dire une absence de spermatozoïdes, bien évidemment, comme votre médecin l'a fort justement préconisé, il faut refaire un contrôle. Si l'azoospermie se confirme, la plupart du temps, c'est que c'est la conséquence d'un problème ancien, donc il n'y a la plupart du temps pas de guérison à espérer. Néanmoins, les techniques d'assistance médicale à la procréation à l'heure actuelle, permettent d'aller, dans certains cas, chercher les spermatozoïdes là où ils sont fabriqués, c'est-à-dire au niveau des testicules, par une petite intervention, et ensuite de faire chez la femme une fécondation in vitro par micro-injection dans l'ovule des spermatozoïdes qui auront été recueillis. C'est quelque chose qui est assez fréquent et qui est le traitement qui permet d'avoir des enfants à des tas d'hommes infertiles avec une azoospermie qui persiste, dans certains cas, notamment quand c'est lié à des séquelles d'infection au niveau de l'appareil génital. Parfois, quand c'est un problème d'ordre génétique, c'est moins facile, mais là, je n'ai pas les détails vous concernant. Donc, il faut garder espoir à ce niveau-là.
Docteur Sylvie Eppelboin, on a bien entendu ce que vous venez de dire. Malgré tout, il y a la question toujours qui se pose, c'est de l'accès à ces traitements, tant sur le plan financier ou simplement qu'il y ait ce genre de technologie, même si ça se développe de plus en plus, y compris en Afrique de l'Ouest.
Il y a à Bamako, bien sûr, des équipes fort compétentes
qui travaillent sur ces questions.
Et qui connaissent ces techniques.
Voilà, Badra, pour cette réponse du docteur Eppelboin. Je vous souhaite une excellente journée au Mali. On va partir tout de suite pour le Cameroun, pour Bafoussam, où l'on retrouve Gaëlle. Gaëlle, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Gaëlle.
Alors, j'ai 31 ans et depuis quelques temps. Mon fils mentait diminue au fil des années.
La ligne est très mauvaise, on a vraiment du mal à vous entendre. Excusez-moi Gaëlle, est-ce que vous pouvez peut-être vous éloigner un peu de l'appareil? Je ne sais pas, parce que là, votre voix arrive un petit peu hachée. On a du mal et on a envie de comprendre ce que vous nous dites, mais on a un petit peu du mal à vous comprendre.
Vous m'excusez mieux?
Oui.
Vous m'entendez mieux là?
Oui, c'est pas très bon, mais essayez de nous expliquer, on va voir.
Ok. Bon, je disais au fil des années, mon fils m'enfuyait à brûler. Et l'an passé, il y a un an, j'ai fait un nœud clair, et après, mon aspiration, je n'ai plus pratiquement mes montrées. Bon, j'arrivais, ça fait juste une journée et demie, voire deux jours, alors qu'avant, j'étais normalement. Et j'allais 3-4 jours. Maintenant, presque plus rien. Donc, je suis allée voir mon gynécologue qui m'a prescrit du patient. Et jusqu'ici, ça n'a aucun impact sur la quantité de mon saignement, enfin, du flux. Mais ça a régularisé mon cycle vu que j'avais un cycle irrégulier.
Gaëlle, je vous coupe tout de suite. Je résume. Vous interrogez sur votre cycle menstruel qui est de durée réduite. Vous dites que vous saignez environ 2 jours. Ça a changé par rapport à avant. Vous dites que vous voulez avoir un enfant. Vous essayez depuis combien de temps d'avoir un enfant ?
En fait, je n'essaye pas vraiment.
Ah, d'accord. Ok, vous êtes avant et vous vous interrogez sur le lien entre la durée de ce cycle et éventuellement la fertilité. Alors, docteur Sylvie Pelleboin, est-ce qu'il y a un lien entre justement 1, 2, 3 jours de règles et la capacité à concevoir?
Oui, il y a toujours un lien, mais j'ai compris que ce qui inquiétait surtout Gaëlle, c'était cette irrégularité. Alors, il y a deux types d'irrégularité. Il y a l'irrégularité dans la survenue des cycles. Est-ce que c'est vraiment tous les mois, tous les 28 jours ou beaucoup plus irrégulier? Et puis, il y a ce que chaque femme considère être la norme du flux menstruel, à la fois en abondance et en durée. Et donc, dans la question de Gaëlle, j'entendais qu'elle était soucieuse parce qu'elle ne saignait que pendant 1 jour et demi, 2, avant 3 ou 4 jours auparavant. Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui peut être grave et qui peut être faire soupçonner un fibrome de l'utérus, par exemple, c'est quand, au contraire, les cycles s'allongent et qu'une femme saigne à longueur de cycle. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça peut entraîner une anémie importante et c'est quelque chose d'assez fréquent qui peut aussi se traiter, bien évidemment. Le Duphaston qu'on lui a donné, donc le médicament qui permet de régulariser, montre que tout est facilement traitable et il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter par rapport à la fertilité et considérer que finalement ne saigner que 1 jour ou 2 plutôt que 3 ou 4, eh bien c'est pas bien grave dans la vie. Donc je ne pense pas que Gaëlle ait aucune raison de s'inquiéter à ce sujet.
On pourrait dire trivialement pas question de s'inquiéter avant de commencer.
Oui, on peut vraiment dire ça.
On peut dire ça.
Mais c'est normal de se poser des questions
tout
en
à
même
fait,
temps.
Tout à fait. Très bonne question à vous, Gaëlle, à Bafoussam. Et on va prendre en ligne Guy, qui est à Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour, Guy.
Bonjour.
On vous écoute, Guy.
Bon, il y a presque 7 ans de cela.
Oui.
Bon, comme je vous avais expliqué, bon, nous, on est en habitude de prendre 2 femmes, quoi.
Donc, vous êtes polygame, vous avez 2 épouses. Alors, comment ça se passe pour vous? Expliquez-nous.
Donc, la première, j'ai eu un bon garçon avec elle.
Oui.
Actuellement, elle est enceinte de 4 mois aussi.
Mm-hmm.
Bon, mais la deuxième, je l'ai prise depuis 2011.
Mm-hmm.
Bon, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir des enfants.
Mm-hmm.
Bon, et on a essayé tout, voilà quoi, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas fait.
Elle a consulté un gynécologue. Qu'est-ce qu'a dit ce gynécologue, Guy?
On n'a pas vu pas mal de gynécologues, mais il y a un gynécologue qui est là, qui s'appelle Ndarifal.
Et quel a été son diagnostic?
Voilà, elle nous a dit qu'elle souffre de trompes bouchées.
Mm-hmm.
Bon, il est nécessaire de faire une intervention. Donc, on a fait l'intervention le avril 2018.
Et bon,
on a attendu trois mois après et on est parti le revoir. Bon, il nous a mis, sous du façon 10 mg pendant trois cycles. Bon, après les trois mois, il nous a mis au vu supplice encore pendant trois mois.
Donc, pour l'instant, le bébé ne vient toujours pas, docteur Sylvie Pelleboin. Donc, problème de trompe bouchée, opération, puis traitement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Guy?
Je peux dire à ce monsieur, effectivement, bonjour, que à partir du moment où il a eu deux enfants, enfin un enfant déjà né et une grossesse en cours avec la première femme qu'il a prise, selon son expression, ce n'est pas sa fertilité à lui qui semble être en cause et que on a identifié un problème de trompe bouchée chez la deuxième épouse. Une intervention au niveau des trompes peut parfois permettre de récupérer la perméabilité en tant que passage, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si les trompes ont été très abîmées, ça ne suffit pas pour que un embryon qui peut éventuellement se former à ce niveau puisse cheminer jusqu'à l'utérus. C'est par contre un risque important de grossesse extra-utérine, donc si jamais votre épouse avait un retard de règles, mal au ventre ou des saignements un petit peu anormaux, eh bien, il faut penser que ça peut être une grossesse anormale et grave. Je me permets de vous lancer le message au passage, mais une intervention ne signifie pas la guérison en matière de trompe quand il y a eu un problème auparavant, et c'est probablement ça l'explication. La seule solution serait donc le recours à la fécondation in vitro. Là encore, on ne peut pas ne pas la nommer, c'est probablement un petit peu délicat dans votre cas, mais c'est malgré tout la solution que l'on peut préconiser si votre femme n'est toujours pas enceinte.
Voilà, cette réponse du docteur Sylvie Pelleboin. Guy, on vous souhaite une bonne journée en Mauritanie, et on va partir pour une autre destination pour rejoindre l'un de vos confrères, docteur. On va rejoindre tout de suite le Togo.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, docteur Moïse Fiaggio, bonjour.
Bonjour, Capé.
Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous occupez donc de questions d'infertilité à la clinique Biassa de Lomé. Combien de centres de prise en charge des questions d'infertilité, justement, aujourd'hui dans votre pays, le Togo, docteur Fiaggio?
Aujourd'hui, nous avons deux centres de fertilité qui font l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire qui font des inséminations et qui font la fécondation in vitro dont on parle. Mais ce n'est pas suffisant pour un pays de 7 millions d'habitants. Il faudrait un peu plus de cycles. Mais ce qui bloque surtout, c'est les problèmes d'accessibilité, le problème de coût et le problème aussi de disponibilité de ces centres dans nos pays.
Alors justement, dans vos pays, vos deux centres du Togo prennent en charge, on l'a bien compris, hein, forcément des couples togolais, mais aussi des couples qui viennent d'autres pays de la région.
Oui, tout à fait. Nous recevons des couples du Togo, mais nous recevons des couples qui viennent de l'extérieur du Togo, de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, ou même qui viennent même d'Afrique centrale. Mais cela, comme je le disais, cela ne suffit pas. On considère qu'il faut à peu près 1500 cycles de fécondation in vitro pour 1 million d'habitants dans les pays. Et justement, en Afrique, comme il y a beaucoup de problèmes d'infection, de problèmes de pathologie des trompes, la fécondation in vitro devrait être pratiquée un peu plus. Malheureusement, cette fécondation in vitro n'est pas du tout accessible aux populations. Et imaginez qu'un couple qui va venir de 1000 km pour venir faire une fécondation in vitro à la capitale.
La ligne est en train de se dégrader, on l'entend, hein, on entend de moins en moins ce que vous êtes en train de nous dire, et c'est bien dommage, docteur Moïse Fiadjo, avec ce problème d'accès. On va essayer de vous rejoindre, hein, on refait votre numéro pour pouvoir poursuivre cet échange. En tout cas, un point important qu'on vient d'entendre déjà, docteur Sylvie Pelboin, du côté du Togo, mais c'est vrai aussi pour de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le problème entre les besoins des couples et l'offre réelle qu'ont ces couples justement d'accéder aux technologies actuelles de procréation médicalement assistée.
Oui, absolument. Le docteur Fiadjo vient de le dire parfaitement. On a toujours, on parlait de présupposés tout à l'heure. On a toujours l'image d'une Afrique fertile, mais nous savons très bien le nombre de personnes qui souffrent de multiples problèmes, au premier rang desquels les problèmes d'obstruction des trompes pour les femmes, et bien sûr les mêmes problèmes d'infertilité masculine que partout. Et donc, on a de nombreux confrères d'une grande compétence qui sont en grande difficulté, parce que j'ai dit nombreux, mais pas assez nombreux pour faire face à toutes ces problématiques. Et je ne ferai que répéter ce que le docteur Fiadjo vient de dire, c'est-à-dire les problèmes économiques que cela soulève, le coût.
Docteur Moïse Fiadjo, on vous a retrouvé, c'est tant mieux. Au niveau de la perception par la société togolaise, quand un couple vient vous voir, réussit finalement à avoir ce bébé grâce à son amour, mais aussi grâce à votre savoir-faire, comment c'est perçu par la famille, par l'entourage? On en parle ou on le tait?
Alors, au début, les enfants nés par fécondation in vitro étaient mal perçus, parce qu'on pensait que c'était des enfants qui ne sont pas naturels. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont nés par fécondation in vitro. De l'autre, ça passe bien.
On a entendu le début de la réponse, mais hélas, à nouveau, la technique joue contre nous. On est vraiment navré, docteur Moïse Fiadjo. En tout cas, merci beaucoup pour cette explication un petit peu arrêtée avant l'heure, pour des raisons techniques. Merci d'avoir été avec nous en ligne du Togo. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. On a entendu tout à l'heure, docteur Sylvie Pelboin, les auditeurs, les auditrices, parler de leurs problèmes avec pas mal de pudeur, parce qu'ils ne se sont pas épanchés sur leurs sentiments, parce que ce sont parfois des choses qu'on ne dit pas tout simplement à la radio. Par contre, vous, en consultation, ça doit être quelque chose qui revient. Cette souffrance, cet espoir déçu, comment les couples l'expriment-ils?
Oui, bien évidemment, c'est un domaine où s'exprime toute la souffrance du monde. Et je voudrais rebondir pour vous répondre sur ce que vient de dire, malheureusement interrompu, le docteur Fiadjo, que je profite pour saluer à cette occasion. Ce qu'il a dit, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé dans les pays comme le nôtre, où la fécondation in vitro a pu être pratiquée avant. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un grand secret, les gens n'en parlaient pas, exactement pour les mêmes raisons. À l'heure actuelle, il y a à peu près 3% des enfants qui sont nés en France et dans les pays qui pratiquent la FIV d'assistance médicale à la procréation. Et c'est devenu un sujet dont on peut parler, dont on ne se cache pas, sauf quand il y a intervention d'un tiers donneur d'ovules ou de spermatozoïdes, où c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça n'était pas votre question, mais je voulais vraiment mettre le parallèle entre... C'est partout pareil, finalement. La souffrance des couples, elle est extrêmement importante. Les gens l'expriment plus ou moins. C'est vrai que nous voyons en consultation l'homme et la femme, et qu'il est compliqué parfois de laisser s'exprimer les sentiments de l'un ou de l'autre, mais que c'est des sentiments qui sont exprimés à deux dans une consultation assez particulière. Puis il n'y a pas d'autres exemples en médecine où on parle à deux personnes à la fois, et où certains éléments de jardin secret de l'un et de l'autre vont être explorés, et on révèle ainsi des choses qui vont parfois changer la vie du couple. La souffrance, vous en parliez dans votre introduction tout à l'heure, elle est parfois entretenue par le regard des autres, le regard de la famille et la mise à l'index de personnes dont on pourrait penser, par exemple, qu'elles ont vécu égoïstement pendant un moment sans vouloir d'enfant, et que maintenant elles l'ont bien cherché quand les femmes cherchent à avoir un enfant un petit peu tardivement.
Il y a un poids moral toujours, il y a un poids moral, qu'il soit de la famille ou de la société.
Et la fertilité humaine, comme la grossesse d'ailleurs, attire vraiment le regard des autres, et un domaine particulier particulièrement ciblée de prise de position des uns et des autres,
de la vie privée des autres.
Une appropriation, une curiosité, parfois extrêmement bienveillante et parfois malsaine.
Vous travaillez en milieu hospitalier, quand on s'occupe, hein, je vais dire, des spermatozoïdes, des ovules, des gamètes, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui s'occupe justement de cette douleur personnelle? Est-ce qu'il y a des recours à des psychologues, à des consultations spéciales, quand on voit que les gens ne vont pas, et bien sûr, du côté de leur appareil reproducteur, mais aussi dans ce qui gère pas mal cet appareil reproducteur, à savoir le cerveau?
Avant tout, l'écoute de la part psychologique de l'infertilité revient au médecin qui est consulté, puisque les gens viennent consulter un médecin et pas un psychologue d'emblée. Donc, ça fait partie intégrante de la consultation médicale et du devoir de tout médecin. La proposition d'un psychologue est parfois refusée au départ. Les gens disent « mais attendez, moi j'ai un problème, ne me renvoyez pas du côté du psy, je veux que vous fassiez votre métier de technicien ». Et puis au fil du temps, quand la confiance s'instaure, c'est vrai que des choses peuvent émerger, que les gens acceptent beaucoup mieux la proposition d'un psychologue qui a un rôle essentiel dans le domaine de la procréation et parfois de également des traitements qui représentent un parcours que certains appellent parcours du combattant. Je n'aime pas du tout cette expression parce qu'on ne combat que la stérilité, mais en tout cas un parcours semé d'étapes diagnostiques, c'est-à-dire le bilan, et puis d'étapes de traitement où on a des alternances d'espoir et de déception parfois avant que n'arrive le succès. Donc la présence d'un psychologue est très précieuse.
Docteur Sylvie Pelbois, en septembre dernier, des spécialistes du domaine, de cette discipline, ont lancé un appel pour un plan fertilité, pour une meilleure information. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette suggestion? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important?
Oui, oui, c'est absolument fondamental. On parlait tout à l'heure de l'ignorance d'un certain nombre de personnes par rapport à la diminution de la fertilité féminine avec l'âge, par rapport aux phénomènes environnementaux. Et donc...
Il faut de nouvelles recherches, par exemple, dans ce secteur?
Il faut une meilleure information. L'expérience des dernières décennies a montré que cette information, pour l'instant, ne passait pas. Donc, il y a des idées qui fusent. Une consultation qu'on pourrait proposer à toutes les femmes entre 30 et 35 ans pour qu'elles puissent entendre une information comme on a une proposition de consultation, de mammographie, un certain âge où le cancer du sein est plus important. Alors, le parallèle n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas... une information mieux préparée, ça c'est un des points du plan fertilité. Une aide aux femmes pour être enceintes plus tôt, c'est-à-dire une aide dans toutes les structures sociales pour l'accueil des jeunes enfants, bon, etc., etc. Je pense que là, on n'a pas le temps de détailler un tel plan fertilité, mais il va dans tous les sens et il mobilise tous les acteurs de la vie sociale.
Merci beaucoup. Merci à Dr Sylvie Pelbois d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes médecin de la reproduction au sein de l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous allons à présent revenir sur les conclusions d'une étude publiée le mois dernier, des recherches menées par une équipe de l'Institut Pasteur qui suscite un espoir dans l'identification des cellules réservoirs du virus du sida. Alors ces recherches s'appuient sur les dernières avancées de l'immunologie. Nous sommes en ligne avec Assiercès Sirion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au sein de l'unité HIV Inflammation Persistance à l'Institut Pasteur. Vous avez coordonné cette étude qui a été publiée le 20 décembre dans la revue Cell Métabolisme. Alors on va essayer d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident quand on parle cellules, immunologie, etc. Assiercès Sirion, d'abord on va expliquer ce que sont ces fameuses cellules réservoirs du virus du sida.
Oui, tout à fait. Donc, le VIH, le virus du sida, c'est un virus très simple qui, pour se multiplier, doit intégrer le génome de la cellule. Et donc, les traitements antirétrovirales vont réussir à empêcher la multiplication du virus. Mais une fois que le virus est intégré dans la cellule, ces antirétroviraux ne peuvent pas l'éliminer. Et d'ailleurs, notre système immunitaire ne va pas reconnaître une partie des cellules infectées, donc qui vont persister pendant des années malgré les traitements.
Alors le virus.
C'est ça qu'on appelle un réservoir.
Alors le virus reste donc caché dans son réservoir, dans les cellules, et on cherche à se débarrasser de ce virus qui est endormi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le virus reste dans son forme latente, qui n'est pas reconnue, comme il disait, par les antirétroviraux ou par le système immunitaire. Et donc, c'est la grande barrière qui reste pour éliminer l'infection. Il faut se débarrasser de ces cellules infectées.
Parce que lorsqu'on arrête les antirétroviraux, les ARV, eh bien, le virus endormi risque de se réveiller.
Oui, c'est ça qui se passe dans la plupart des cas. Et si on interrompt le traitement antirétroviral, le virus commence à se multiplier au même niveau qu'avant le début du traitement.
Alors, cellules réservoirs, on veut donc cibler des cellules infectées. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau précisément dans vos recherches à Circès-Sirion?
Oui, donc l'objectif, c'est cibler la cellule infectée. Pour cela, il faut soit trouver un marqueur spécifique de la cellule infectée, donc une empreinte qui aurait laissé le virus, soit ce que nous essayons, c'était d'identifier les caractéristiques qui cherchaient le virus dans la cellule pour se multiplier. Donc, le virus, comme je disais, c'est un élément, une particule très simple, il a besoin de facteurs cellulaires pour pouvoir se multiplier. Et ce que nous avons trouvé, c'est que le virus du sida va se multiplier sur certaines cellules du système immunitaire, mais en particulier des cellules qui ont des activités, qui ont dit métaboliques, très élevées. Donc, ce sont des processus qu'il a, ou des réactions qui se produisent à l'intérieur de la cellule, à travers lesquelles la cellule va obtenir l'énergie et les facteurs nécessaires à se multiplier, à survivre, etc. Et donc, c'est là, dans ce type de cellules où les VIH, le virus du sida, va trouver l'environnement idéal pour pouvoir se multiplier.
Est-ce que les techniques, les avancées justement de vos recherches, on les retrouve pour le traitement d'autres maladies à Circès-Sirion?
Oui, donc une des caractéristiques de ces cellules, ces activités métaboliques qu'on trouve sur la cellule infectée, ressemble en quelque sorte au même type de status des cellules cancéreuses, en quelque sorte, pas au même niveau, mais les cellules cancéreuses ont aussi ce même type d'activité très élevée. Et on pense qu'en utilisant des inhibiteurs qui vont cibler certaines de ces activités métaboliques, ou réactions métaboliques, on pourrait peut-être éliminer les cellules infectées et comment il est en train d'être exploré dans les cas de cancer. Donc avec ces inhibiteurs métaboliques, il y a des équipes qui essaient d'éliminer les cellules cancéreuses.
Alors aujourd'hui, on en est à la recherche. À quand un essai clinique?
C'est difficile de dire parce que avec les traitements antirétroviraux qu'on a aujourd'hui, on peut bloquer les virus, et on s'attaque à des différentes activités de la multiplication du virus. Ici, il s'agit de s'attaquer à des activités biologiques de la cellule, et donc il faut être sûr qu'avec les molécules que nous sommes en train de tester, on va cibler les cellules infectées, mais pas les cellules qui ne sont pas infectées. Et donc là, il nous reste encore quelques années d'exploration pour trouver les meilleures combinaisons de molécules pour être très spécifiques sans avoir des effets délétères. Et on parle en tout cas d'une question de quelques années.
De quelques années. Merci beaucoup, Assier Sirion. Je rappelle que vous êtes chercheur au sein de l'unité HIV à l'Institut Pasteur. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez tous à maquer. Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, coup de projecteur sur la méningite, prévention, traitement, séquelles éventuelles. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. 7 000